De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'émotion et la colère à Calais au lendemain du terrible naufrage. 27 morts noyés dans la Manche en tentant de traverser vers l'Angleterre. Paris et Londres mettent l'accent sur la responsabilité des passeurs. 25 000 traversés depuis le début de l'année. Nous serons à Calais et à Londres dans un instant. Un rappel de vaccin pour tous les adultes à partir de 5 mois après la dernière dose. Délai raccourci, voilà ce que devrait annoncer Olivier Véran aujourd'hui pour faire refluer la 5e vague de Covid. À la une aussi, le cannabis légalisé en Allemagne. La future coalition au pouvoir annonce la couleur et cette mesure phare de sa future politique. Débat ce matin sur France Inter, universalisme ou wokisme, quel chemin vers l'égalité? Question posée à vos deux invités tout à l'heure, Nicolas.
Oui, Alice Coffin, qui est conseillère municipale Europe Écologie Les Verts de Paris. Et avec nous également dans ce grand entretien, l'essayiste et journaliste Brice Couturier. Vous avez la parole, amis auditeurs, dans ce débat 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, quelles sont ces armes saisies dans les milieux d'ultra-droite, pas cher et sans permis? Gros plan sur les revolvers à poudre noire dans ce journal. Et puis une série baroque à voir sur Arte, signée Valérie Donzelli. Miu Miu y incarne une femme enceinte à 70 ans.
France Inter.
Combien était-il au départ de Dunkerque à monter sur ce canot gonflable qui n'est jamais arrivé en Angleterre? Les sauveteurs ont donc retrouvé 27 corps hier dans la Manche, à 20 km de Calais. Parmi eux, 7 femmes et sans doute 3 enfants ou adolescents. Jamais la France n'avait connu de telles tragédies dans ses eaux territoriales. Il y a 2 survivants, apparemment irakiens et somaliens. Ils sont à l'hôpital. Les corps des noyés ont été ramenés dans la nuit au port de Calais, sous les yeux d'une 50aine de personnes. Maureen Suignard, réunie par l'émotion et la colère.
Les visages sont graves, quelques-uns portent des pancartes pour marquer leur indignation. Au sol, des bougies ont été déposées et pendant ce temps, à plusieurs reprises, des véhicules sortent du port de Calais.
On voit des corbillards, c'est des corps. C'est des gens qui sont noyés pour 30 km.
Olivier exprime sa colère, tout comme Sylvia, qui habite à 2 pas.
Ça me touche beaucoup, énormément. C'est une honte. Et là, c'est pire. Ce soir, c'est pire, là.
En déplacement à Calais, Gérald Darmanin assure que les premiers responsables sont les passeurs. Mais c'est aussi la politique du ministre de l'Intérieur qui indigne Sylvia.
Le ministre est là, il vient ici, pour quoi faire? Il faut arrêter la violence, il faut arrêter les démantèlements. Il faut leur donner une tente, il faut leur laisser leur sac de couchage. On les retient, qu'on les retient dans des bonnes positions, alors. Ou alors, on met tout le monde dans le bateau une fois par mois, puis on les laisse partir.
Hier soir, Londres et Paris ont convenu de l'urgence à lutter contre les traversées illégales. Il faut des actes et vite, plaide Pierre Roch, le coordinateur de l'association L'Auberge des Migrants.
Il faut surtout du courage politique, en fait. Il faut effectivement que la France et la Grande-Bretagne se mettent autour d'une table et se disent, en fait, comment on fait pour que les gens n'aient plus à risquer leur vie pour traverser un détroit de 30 km. Une voie de passage légale, en fait.
Plus de 31 000 migrants ont tenté la traversée de la Manche depuis le début de l'année, selon les autorités.
La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. Les mots d'Emmanuel Macron face à la tragédie. Il a parlé à Boris Johnson au téléphone et s'est engagé avec lui à lutter contre les passeurs qui organisent ce trafic mortel de migrants vers la Grande-Bretagne. Et c'est le même message qu'a passé Gérald Darmanin sur place à Calais hier soir.
La première responsabilité est celle, bien sûr, des criminels que sont les passeurs. Et moi, je veux dire, après l'émotion qui nous étreint tous, la grande colère qu'on peut tous avoir vis-à-vis de ces criminels et vis-à-vis peut-être de pays qui ne jouent pas tout à fait le jeu dans l'interception de ces criminels qu'on doit traiter comme des criminels qui ressemblent à des terroristes, à des grands trafiquants de stupéfiants. Et évidemment, c'est un drame absolu qui nous remplit de colère et qui doit avoir des conséquences de réponse policière, de gendarmes, de justice, mais également de moyens supplémentaires qu'on doit encore davantage mettre. Et ces moyens ne peuvent pas être mis que par les Français.
Le ministre de l'Intérieur qui indique que 4 passeurs soupçonnés d'être en lien avec la tragédie ont été arrêtés quand Emmanuel Macron demande une réunion d'urgence des Européens sur ce dossier. Les tentatives de traversée ont doublé ces 3 derniers mois. Au total, plus de 25 000 personnes cette année ont réussi à passer de la France à l'Angleterre. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres, Richard, qu'est-ce qui pousse ces hommes, ces femmes, ces familles à vouloir à tout prix vivre au Royaume-Uni et que deviennent-ils une fois arrivés à destination?
Alors ils doivent demander l'asile et pour l'obtenir, il faut justifier d'un risque pour sa vie dans son pays d'origine. Si la demande est acceptée, la personne concernée peut rester au Royaume-Uni avec ses enfants et sa femme ou son mari. Au bout de 5 ans, elle pourra réclamer la nationalité britannique, ce qu'un projet de loi veut remettre en cause. La ministre de l'Intérieur veut créer des citoyens de seconde zone, en quelque sorte, pour éviter l'appel d'air, rendre la Grande-Bretagne moins attrayante pour cette immigration subie. Si la demande d'asile est rejetée, la personne peut être expulsée. Mais où? Le Brexit complique la situation dans l'Union. l'Union européenne, le clandestin est renvoyé vers le pays de la zone par lequel il est entré. Le Royaume-Uni a quitté l'Europe et donc quitté cet accord aussi. Depuis le début de l'année, 5 migrants seulement ont été renvoyés vers le continent. Et puis, il y a ceux qui mènent une vie dans l'ombre. On estime leur nombre à environ 1 million. La société britannique est très communautarisée. À Londres, Birmingham ou Manchester, des quartiers entiers sont peuplés de Soudanais, d'Irakiens, d'Albanais. Parmi eux, il y a des sans-papiers qui ne parlent pas forcément anglais, travaillent au noir et n'ont aucune existence légale. Une vie de misère avec la crainte permanente d'un contrôle d'identité.
Richard Place en direct de Londres. À Paris, Jean Castex a convoqué une réunion de tous les ministres concernés dans une demi-heure.
Il est 8h06 et revoilà donc, Florence, la conférence de presse Covid du jeudi.
Olivier Véran au pupitre pour annoncer des décisions prises hier en Conseil de défense sanitaire. Masque de nouveau obligatoire dans tous les lieux publics à l'intérieur. Test anti-Covid valable 24 heures et plus 72 heures pour entrer dans un endroit soumis au pass sanitaire. Et surtout, extension de la dose de rappel à tous les adultes, sans doute à partir de début décembre. Ce rappel serait conseillé 5 mois après la première injection et non plus 6. Question d'efficacité, Véronique Julia.
Ce n'est pas la première fois qu'on revient sur des délais. La question s'était posée déjà au printemps dernier sur l'écart à respecter entre première et deuxième dose. Si au départ, on a parlé d'une dose de rappel à 6 mois, c'est parce que c'est souvent ce qui se pratique. Les études portaient d'ailleurs il n'y a pas si longtemps sur l'efficacité de ces rappels à 6 mois. Ce qui a changé la donne, c'est une étude récente venue d'Israël et parue fin octobre dans le Lancet. Elle mesure l'efficacité en vie réelle du rappel dès 5 mois sur plus d'1 million de patients et les résultats sont excellents. Non seulement la réponse immunitaire est spectaculaire, avec une remontée impressionnante du taux d'anticorps qui dépasse même largement ce qu'on avait pu atteindre avec 2 doses, mais elle est rapide. La protection apparaît aussitôt. Elle est optimale au bout d'une semaine quand il fallait attendre le double avec la 2e dose. Dans la course contre l'épidémie, on aurait tort de se priver d'un rappel efficace au bout de 48 heures qui sera de nature à limiter tout de suite contamination et formes graves. Les dernières modélisations de l'Institut Pasteur devraient d'ailleurs confirmer le bénéfice de cette anticipation à 5 mois sur la dynamique et sur les niveaux de l'épidémie. Leur publication est imminente.
Et cette dose de rappel, il faudra la faire dans les 2 mois qui suivent ce délai de 5 mois sous peine de voir son pass sanitaire désactivé. Hier encore, 32 000 personnes ont contracté le virus en France et 80 en sont mortes. Et s'il n'y a pas encore de saturation des hôpitaux, des premiers signes d'engorgement se font déjà sentir. Reportage à l'hôpital privé d'Antony dans les Hauts-de-Seine, signé Marion Ferrer.
Merci à vous.
La salle d'attente des urgences est pleine. Dans les couloirs, il faut slalomer entre les brancards et les fauteuils roulants.
Le service, il fonctionne tout le temps. On opère des gens, on prend en charge autre chose, on prend de la vie de tous les jours, de la vie d'avant. Je veux dire, les gens se sont mis à vivre comme avant.
Le docteur Christophe Kieck est médecin urgentiste. La totalité de ses lits sont occupés, ses infirmiers courent partout. Et alors que l'hiver a à peine débuté, il constate que les cas de Covid repartent à la hausse.
Hier, on a dû en faire une dizaine. Et cette activité-là, on la sent venir, on la voit venir. Après, je vous dis pas que ça va être simple sur la gestion des lits, que ça va être simple sur la thématique de la gestion du personnel.
Des patients non vaccinés.
Plus de 34 ans, c'est des jeunes, oui.
Ce qui irrite les soignants. Laurence Labruni, cadre de santé.
Il y a une vraie lassitude. C'est agaçant, c'est le terme, voire peut-être un peu plus. Connaissant maintenant, on a quand même du recul, quoi qu'on en dise. Donc prendre ce risque, c'est un risque que les personnes prennent pour elles, mais qu'elles font prendre aux autres également.
À l'hôpital d'Antony, un plan d'action est déjà prévu. Les services de soins continus et de chirurgie seront les premiers réquisitionnés, ce qui pourrait arriver dans 3 semaines, selon les soignants.
Ailleurs en Europe, la Slovaquie annonce un confinement de 2 semaines avec magasins et restaurants fermés, puis interdiction de sortie toute la journée. Chez nos voisins allemands, 76 000 nouvelles contaminations hier et un bilan de 100 000 morts dépassés. Ce sera le premier dossier à gérer pour la nouvelle coalition allemande. Sociaux-démocrates, verts et libéraux ont trouvé un accord pour gouverner ensemble hier. Distribution des postes au gouvernement et feuille de route des 4 années à venir, dans laquelle on trouve cette annonce frappante, la légalisation du cannabis en Allemagne. À mille lieues de l'opinion du gouvernement français sur le sujet, Gérald Darmanin parlait encore cet été de défaite morale pour qualifier ce que nos voisins allemands s'apprêtent à faire. Franck Madvon.
Voilà des années que les Verts et les libéraux allemands proposent la légalisation du cannabis. Encore fallait-il convaincre les sociodémocrates, qui étaient de toute façon favorables à un assouplissement de la loi. Un accord n'est donc pas étonnant. Aujourd'hui en Allemagne, dans les faits, l'usage est dépénalisé. Demain, le marché sera donc totalement encadré. Des magasins agréés pourront vendre de l'herbe ou du haschich. D'après l'accord de coalition, c'est un moyen de contrôler la qualité, d'éviter la présence de substances toxiques et de protéger les jeunes. Comme dans tous les pays qui ont légalisé le cannabis, l'objectif est aussi d'assécher le marché noir. Le sujet fait toutefois débat en Allemagne. Des sondages ont même montré que la population n'était pas favorable à cette réforme. Des syndicats de policiers s'y opposent avec vigueur. Ils soulignent que le cannabis est une drogue dangereuse, notamment sur la route. Un énorme marché s'ouvre en tout cas en Allemagne. Une récente étude prévoit la création de 27 000 emplois et une manne de près de 5 milliards d'euros par an pour l'État. Des revenus fiscaux, bien sûr, mais aussi des économies, par exemple en matière de poursuites pénales.
Franck Madvon, c'est un archipel du sud du Pacifique qui s'embrase aux îles Salomon. Des milliers de manifestants réclament la démission du Premier ministre, accusé d'être trop proche de la Chine. Des émeutiers ont donc envahi cette nuit le quartier chinois de la capitale et mis le feu à plusieurs bâtiments. L'Australie annonce l'envoi d'une force de maintien de la paix. Autre lieu, autre colère, des centaines de personnes ont manifesté contre la venue d'Éric Zemmour hier à Genève. Il a donné une conférence hier soir dans un climat très tendu, plusieurs alertes aux colis piégés dans l'établissement qu'il accueillait au bord du lac Léman. La ville de Genève avait fait savoir qu'il n'était pas le bienvenu.
France Inter, il est 8h12, la suite du journal. Florence Paracuelos.
Des hommes qui tirent sur des cibles figurant un juif, un noir et un musulman. Image stupéfiante de l'entraînement d'un groupuscule d'ultra-droite, milieu dans lequel les arrestations se multiplient ces derniers jours, avec à chaque fois ou presque des armes saisies, souvent achetées légalement et sans permis. Ce sont les revolvers à poudre noire. De quoi s'agit-il? Enquête signée Timur Özturk.
En France, un adulte peut entrer dans une armurerie, présenter sa carte d'identité et en ressortir propriétaire d'une arme à feu moyennant 200 à 300 euros. Sans permis de chasse ou licence de tir sportif, il suffit d'acheter une arme à poudre noire.
Ça, c'est la réplique d'un revolver à silex.
C'est le seul modèle qu'a en magasin Yves Goletti, le président de la chambre syndicale des armuriers. Il en écoule très peu.
Il faut faire ses cartouches, il faut avoir une dose de poudre, la balle, c'est long à charger, c'est long à nettoyer. Si vous les bougez trop, les amorces risquent de tomber. C'est pas très pratique à utiliser. Donc pour nous, c'est une vente très 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 minime.
Mais même si un pistolet à poudre noire est archaïque comparé à une arme de poing moderne, il reste dangereux et de nombreuses vidéos en ligne expliquent comment s'en servir. Dans celle-ci, les munitions artisanales sont testées sur une pastèque entourée de viande et les dégâts sont effrayants.
Un trou d'entrée dans les côtes ici, les côtes sont cassées. Elles sont pas détruites en mille morceaux, mais elles sont bien cassées. Voilà à quoi ressemble la cavité à l'intérieur.
À la différence des fusils de chasse, ces pistolets ne sont pas soumis à déclaration. Une personne interdite de détention d'armes peut en théorie se procurer très facilement un revolver à poudre noire. Le service central des armes et explosifs du ministère de l'Intérieur admet ne pas savoir combien de ces armes circulent en France.
On a l'enquête complète à lire sur ces armes à poudre noire sur franceinter.fr. Contre le harcèlement sexuel dans le milieu du spectacle, après le MeToo Théâtre apparu il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, le ministère de la Culture lance un vaste plan de lutte contre ces violences. À partir du mois de janvier, le versement des subventions sera conditionné au respect de plusieurs engagements, dont la formation obligatoire de tous les salariés des compagnies de spectacles vivants. Stéphane Capron.
C'est un plan d'envergure lancé par Roselyne Bachelot. Il concerne 1249 structures dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique. Sont en jeu plus de 272 millions de subventions. Les structures recevant cet argent public devront respecter plusieurs engagements. Sinon, le ministère coupera une partie des vivres. Elles vont notamment devoir créer un dispositif efficace de signalement et s'engager à former tous les salariés permanents tous les 2 ans. Elles devront aussi créer des plans de prévention, traiter systématiquement chaque signalement, engager le cas échéant une procédure disciplinaire à l'encontre de la personne responsable des faits. Les structures devront prouver tous les ans qu'elles ont mis en place ces actions. Depuis son arrivée au ministère, Roselyne Bachelot a procédé à 5 signalements au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Certaines actions judiciaires sont en cours. Je serai toujours aux côtés des plaignantes, a martelé la ministre, qui souhaite que ce mouvement engagé depuis 2017 s'amplifie dans le monde de la culture.
Stéphane Capron, le PSG qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, malgré sa défaite 2-1 hier soir sur la pelouse de Manchester City, mais grâce à la victoire de Leipzig à Bruges. Enfin voilà de quoi nous changer les idées. Direction Arte TV pour une série en 9 épisodes, comme 9 mois de grossesse. La femme enceinte, c'est Miu Miu, mise en scène par la comédienne et réalisatrice de cinéma Valérie Donzelli, Nona et ses filles, à savourer Alexandra Akoun.
À 70 ans, Elisabeth, dite Nona, féministe qui élevait seule ses triplés, pensait enfin pouvoir profiter de la vie, de son amant et de son travail au planning familial de son quartier, la Goutte d'Or à Paris. C'était sans compter avec une grossesse tardive, car oui, Nona est enceinte, sans que personne ne sache trop par quel miracle ni de qui. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde panique.
Quoi, Manu? C'est la merde. Maman est enceinte.
À 70 ans, c'est du jamais vu.
Elle nous aura vraiment tout fait.
Mais foutez-moi la paix! J'ai des comptes à rendre à personne. C'est mon corps. Hein, c'est ma vie.
Vous savez quoi, les filles? On va s'installer ici, avec elle.
Et voilà comment, à 44 ans, Georges Latézard, toujours vierge, Gabrielle, la sexologue célibataire, et Manu, la mère au foyer, pas vraiment heureuse en couple, vont se replier dans l'appartement de leur mère, comme dans un ventre, avec leur frustration, leur désir. Valérie Donzelli.
J'ai voulu raconter l'histoire d'une femme qui, d'un coup, se retrouve encombrée par ses filles qui reviennent vivre chez elle. Et je trouvais que cette idée d'une femme qui tombe enceinte à 70 ans alors qu'elle n'en veut pas était à la fois pas très politiquement correcte et en même temps pouvait permettre de raconter le spectre de la maternité par un autre regard que celui du cadeau de la vie.
Avec une poésie devenue sa marque de fabrique, la comédienne et réalisatrice nous livre une fable surréaliste qui interroge aussi la féminité et la famille et qui fleure bon la nostalgie de l'enfance et les films de Jacques Demy. On me joue.
Nona et ses filles sur Arte TV dès aujourd'hui. Valérie Donzelli sera l'invitée de Nagui dans sa bande originale tout à l'heure à 11h.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Marie-Pierre, ce matin, la dépression circule toujours en Méditerranée.
Et oui, Nicolas, et les fortes pluies concernent encore la région PACA et la Corse, alors que d'autres averses moins fortes tombent de l'Aquitaine au Massif central et moyenne vallée du Rhône, pouvant donner de la neige des 1100 mètres. Alors qu'au nord de la Loire, les nuages sont un peu plus nombreux, avec quelques averses près de la Manche, sous le vent, et avec pas mal de brouillard aussi, quelquefois givrant sur le nord-est, où le mercure est très bas, à moins 6 à Nancy. Vous avez moins 2 sur les Ardennes, comme à Alençon, moins 3 à Nemours. Vous avez 2 à Lyon, 8 à Quimper ou à Brive et 13 à Hyères.
Et pas beaucoup de changements cet après-midi.
Et effectivement, avec toujours des pluies dans le sud et de fortes pluies qui vont se décaler vers la Côte d'Azur et la Corse. Au sud de la Loire, le temps va rester gris et pluvieux, avec toujours de la neige sur les reliefs des Pyrénées aux Alpes, où la limite pluie-neige tombera en fin de journée à 600 mètres. En revanche, au nord, le ciel sera plus variable, avec de belles éclaircies, des températures toujours en dessous des normales, avec seulement 2 à Épinal, 4 à Nevers et Strasbourg, 6 à Lyon et Montgaillard dans le Tarn, où Nicolas Stoufflet enregistrera le jeudi 1000 euros. Vous aurez 8 à Paris, 10 à Brest, 11 à Aurillac, 13 à Perpignan, 15 à Marseille, comme à Bastia.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. France Inter, il est 8h18.